Alors, nous sommes le 4 février 2016 dans les locaux du FID Marseille en compagnie de Jean-Pierre Rhem, délégué général du FID Marseille depuis 2002.
Ça va être ça.
Donc, première question, c'était qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au cinéma?
Je sais pas ce que veut dire m'intéresser au cinéma. Je pense que le cinéma est une espèce de... En tout cas, moi, j'étais élevé en province, à Strasbourg. Je ne suis pas né, mais j'ai passé toutes mes années de formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc dans une ville où le cinéma est prudemment représenté à l'époque, avec une salle, le Star à Réessé, et des parents qui sont, disons, d'une ouverture d'esprit telle que le cinéma ne leur est pas étranger, sans que ça soit une passion ou un intérêt particulier. Mais sont disposés à m'envoyer assez jeune à voir un certain nombre de films. Je suis exposé comme ça à une programmation, disons, provinciale typique d'un RSC, c'est-à-dire rien concernant le patrimoine, une actualité peu débordante. Je me souviens de Hearts and Minds, par exemple, étonnant, le film sur le Vietnam, c'est un souvenir fort, mais je crois que ce souvenir était surtout lié au fait que j'étais le plus jeune dans la salle et exposé en plus à une réalité que je saisissais avec une certaine grande perplexité. Voilà, et après j'arrive à Paris à 19 ans Mais je ne sais pas si là, il faut faire de l'autobiographie.
C'est quel, du coup, c'est en quelle année, ça, à peu près?
Je suis né en 61, donc ça fait 61 plus 19, ça fait 80, c'est ça? Et là, d'une part, je suis en classe préparatoire en banlieue sud. Et donc, timidement, j'explore assez peu Paris, parce que j'ai affaire, et aussi parce que je suis provincial un peu sottement. Et donc, je vais essentiellement dans Ferrand-Jouët. Cela dit, c'est là où j'ai le premier choc avec Olivier. J'allais voir, en fait, un film de Rob Grier, parce qu'il y avait une rétrospective Rob Grier. Je me punissais moi-même à aller voir Rob Grier. Et puis voilà, il s'était trompé dans le Pariscope de séance. Enfin, il y avait eu une erreur, donc j'allais voir. Et puis il y avait autre chose à la place. Il y avait un film dont j'ignorais, enfin un cinéaste dont j'ignorais tout, qui c'était Francisca. Et je dois dire que ça avait été un choc. Mais ça c'est peut-être plus tard. Mais je sais que c'était Aux d'enfer. Et je me souviens qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, que j'avais foncé dans la cabine téléphonique pour prévenir après tous mes amis que il s'était vraiment passé quelque chose. Mais en fait, je mélange un peu les choses dans ma tête parce que je sais aussi qu'à Strasbourg, il y a eu une chose très très importante avant que j'aille à Paris, qui était le TNS et le Théâtre National de Strasbourg, qui à l'époque avait été dirigé sur le modèle allemand par un trio hein, qui était essentiellement de mémoire, Jean-Pierre Vincent, Engels et un troisième dont j'oublie le nom. Et ils faisaient tout un travail, d'une part parce qu'on était à Strasbourg, mais aussi parce que le théâtre à ce moment-là bougeait davantage à Berlin, de curiosité à l'égard de l'Allemagne. Et donc c'est là où j'ai vu aussi pour la première fois, et j'avoue que ça a été un bouleversement, mais vraiment complet, intellectuel, de mes yeux, de ma sensibilité totale, avec c'était pas une rétrospective, mais un nombre conséquent de films de Ziberberg, présentés pour part par lui-même. Bon, je sais pas si vous connaissez, vous avez vu Hitler, un film d'Allemagne et d'autres films. Pour moi, c'était une révélation. Hein. À la fois d'imaginer qu'on pouvait se jouer des formats, qu'il y avait une façon... Enfin, si vous voulez, Hitler, ça a été le film de Zimmerberg, c'était comme une espèce, et c'est une force, je crois, incroyable de ce film, de retournement vers le cinéma primitif, enfin, ou en tout cas vers une histoire du cinéma. C'est un film, hein, vous savez, qui est entièrement comme ça, tricoté de références, mais pas du tout de façon. Enfin, j'ai rien contre les références, mais pas du tout de façon fétichiste, avec une extrême mélancolie, mais aussi une énergie incroyable. Hein. Vous le savez, c'est un film de 7 heures qui a été tourné en 15 jours. Hein. Et ça se sent, hein, ça, une espèce d'énergie, et donc à la fois de film de studio, hein, et Hollywood, parce que tout est en studio, c'est pour ça qu'il a pu tourner aussi rapidement, mais aussi d'utilisation de techniques comme la rétroprojection, enfin bon, bref, vous savez qu'après, Coppola est tombé complètement amoureux de ce film, qu'il l'a distribué aux États-Unis. Que Lucas s'est inspiré du générique. Enfin, c'est des choses qui ont marqué beaucoup de monde. Et après, à Paris, en fait, il y a donc ces histoires. Et puis là, à la Cinémathèque, j'ai des amis qui, eux, sont plus mordus et qui m'entraînent à la Cinémathèque. Et là, je découvre le patrimoine. Je crois que le premier film, c'était Les Espions de Fritz Lang. Et là, les bras m'en tombent, quoi. C'est-à-dire de mesurer. Et bon, et à ce moment-là, il y a une consommation, disons, systématique, sans hystérie non plus, hein, mais il y a une consommation, disons, systématique du cinéma, en parallèle d'études qui sont assez... qui prenaient quand même du temps. Et puis après, je ne sais plus comment ça s'est passé que... j'ai eu envie ou je me suis mis à écrire sur le cinéma. Honnêtement, je ne me souviens plus. Je me souviens d'une chose, c'est que j'avais écrit à Serge Janet qui œuvrait à Libé à ce moment-là parce qu'il avait fait un papier sur le travail au noir de Skolimowski. Et de façon extrêmement prétentieuse, j'estimais qu'il y avait des points qu'il n'avait pas. Il n'avait pas soulevé dans son papier, donc j'avais envoyé une espèce de complément comme ça. Il n'y avait pas eu de réponse. Mais après, d'ailleurs, je crois qu'un de mes premiers textes a été publié, mais c'était après. Oui, mais c'était bien sûr, c'était après la mort de Danet dans Trafic. Mais ça, c'était bien après. Donc voilà. Mais si vous voulez, je me considère pas du tout comme un spécialiste du cinéma. Je ne me considère pas comme un cinéphile. Pas que ça soit honteux, mais simplement, ce n'est pas comme ça que ça m'est arrivé. Et puis après, vous le savez sans doute, enfin, je me suis orienté, je ne sais pas comment dire, oui, enfin, disons vers l'art contemporain, sur lequel j'ai enseigné, sur lequel j'ai écrit. Et en réalité, pour moi, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire que j'ai un intérêt marqué également pour la littérature, de la littérature contemporaine, aussi bien que... Et pour moi, il s'agissait, enfin dans le cinéma, d'œuvres vives. Mais d'œuvres vives, quand je parle des espions, c'est bien sûr des œuvres vives, ou du cinéma de Zimmerberg, ou de votre film, David. Donc, ou des films qu'on défend ici, au FID.
Du coup, quand vous dites que vous n'êtes pas cinéphile, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez toujours fonctionné comme un coup de cœur sur le cinéma ou comment
Non, pas coup de cœur, parce que ça serait quelque chose de l'ordre, vous voyez, d'une espèce de promenade, de goût. Non. Il y a une intensité, hein, il y a une attente, il y a une attente. Non, la cinéphilie, je pense d'abord que Elle est terminée si on en croit Skorecki, qui s'y connaît en cinéphilie. Je pense que c'était un certain rapport à la salle de cinéma, à l'actualité, au débat de l'époque. Et non, je crois que ce n'était plus c'était plus ma période. Et puis aussi, je dois dire qu'il y a des choses au fond dans le cinéma qui, d'une certaine manière, me laissaient froid. Peut-être j'ai bougé sur certaines choses, mais me laissaient froid. Que je jugeais pas. Et ces choses, c'était pas forcément les films de genre, ou c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je sentais pas le besoin de. Mais c'est peut-être pas ça la cinéphilie non plus, mais de m'exprimer surtout. Mais c'est pas non plus. Pour répondre à essayer de répondre à votre question, ça n'a rien à voir avec. C'est plus fort que du coup de cœur, oui, parce que c'est. Il y a une. Oui, il y avait une attente. Il y a eu toujours une. Il y a une grande attente. Oui. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui nourrit le travail ici au festival à la sélection. Qui est éreintant en réalité. C'est épuisant nerveusement parce que rien n'est garanti, si vous voulez. Il n'y a pas une année où vous dites, bon, bah, vous ne savez jamais rien. Enfin, même sur des films qui sont en cours, dont vous êtes averti de leur finition proche, de gens que vous connaissez bien, vous ne savez pas quel va être le film. Et donc c'est des angoisses incroyables de vous dire ça se trouve, ben, il y aura une année sans quoi. Donc c'est très épuisant nerveusement, je dramatise pas, hein, c'est vrai. Mais en même temps c'est un bonheur incroyable de pouvoir dire réellement, ben, écoutez là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Et de façon diverse, si vous voulez, qui se passe par rapport, je sais pas quoi. Alors, il y a des fois, c'est par rapport à tout, mais des fois, c'est par rapport au paysage français, par rapport au paysage latino-américain, par rapport à l'émergence de, je sais pas, de jeunes cinéastes. Vous voyez ce que. Non, parce que coup de cœur, vous voyez, c'est les rubriques dans les magazines féminins. Non, vraiment, je crois que c'est.
Et comme du coup, ça fait depuis 2002 que vous voyez beaucoup, beaucoup de films, est-ce que vous voyez une évolution en lien avec l'évolution technique des films?
Bon, ça c'est une question auquel vous avez la réponse, David. Donc, je vais redire ce que d'autres vous ont dit. Je pense qu'effectivement, ça a été des années un peu pivot, où il y a eu une systématisation, enfin d'outils légers, peu coûteux, avec des productions plus souples, et qui ont permis qu'une inhibition, disons, financière ou même symbolique, soit moins forte. Donc oui, et si vous voulez, je pense que ça, je l'ai déjà dit, et je pense d'autres l'ont dit avant moi ou moi en même temps, que ce qui s'est passé plutôt, c'est que ça a été pour moi une des origines de ne plus vouloir faire le distinguo entre documentaire et fiction, non pas en tant que film même, mais en tant que manifestation, de dire ce qui m'intéressait. C'était le cinéma d'aujourd'hui et pas qu'il soit documentaire ou de fiction. Après, pour moi, les choses restent différentes ou quand elles se mélangent, c'est encore une autre question.
Ce qui correspondait à une réalité, en tous les cas, du cinéma là, qui était en train de se transformer, de toute
J'ai
évidence.
l'impression, en tout cas, c'est ce que moi je voyais, et d'ailleurs plutôt en Asie, en Amérique du Sud, en fait. Hein, c'est surtout dans ces zones-là où ça m'est apparu flagrant. En France, il y a encore, d'ailleurs vous le sentez, dans les discours, il y a encore cette. Mais parce que je pense que c'est. Et puis peut-être je fais de mauvaises analyses, mais c'est aussi lié au problème de maison de production. Il y a toute une histoire aussi d'inscription économique que les pays que je mentionne n'ont pas, hein, ou très différemment. Mais voilà, ça serait, je pense, cette évolution. Et puis que peut-être plus de gens jeunes, ou jeunes, c'est pas vraiment la question d'ailleurs, moins argentés, oui, font, donc il y a aussi plus de films qui se font.
Et vous en recevez plus, du coup.
Oui et non, enfin disons c'est toujours croissant, mais je crois qu'il y a aussi des gens qui ont compris que c'était plus la peine de nous les envoyer. Avant il y avait des maisons de production qui font des choses formatées, vous voyez, qui nous envoyaient, je ne sais pas moi, les productions de l'année, 10-15 films, et on a moins ça maintenant.
Ça présente quoi la proportion des films autoproduits
Oula, c'est à la fois une bonne question, je crois que.
Cette question que je me suis toujours posée par rapport.
Très honnêtement, d'abord, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas le chiffre. En revanche, je n'ai pas non plus le chiffre, mais c'est facile à. Disons que sur les sélections finales, ça représente une proportion très importante. Et puis,
Majoritaire.
je sais pas, mais en plus, tout dépend de ce qu'on appelle autoproduit.
Là, faut les petites, les
Parce que ça peut
associations
être,
qui
moi,
sont
je
là.
sais plus, les premiers films que j'ai montrés d'Olivier Zaba, il les faisait, mais vraiment tout seul, pour strictement en coût, 2000 euros. Et après, il ne se payait pas, et oui, ça coûtait 2000 euros. Son premier film, le premier film que j'ai montré à lui, Miguel et les mines, c'était 2000 euros. Bon, c'était autoproduit. Il y a des choses qu'on appelle autoproduit qui sont autre chose, où il y a. Vous savez bien. Mais oui, ça fait. Mais j'ai pas non plus de religion là-dessus. Je veux pas, en tout cas, avoir de religion.
C'est-à-dire que quand vous recevez un film, vous ne savez pas s'il est,
Si,
s'il
si,
est.
on a moyen de savoir, je crois. Bon, il y a une fiche d'inscription, David, vous le savez, où il y a un certain nombre d'éléments. C'est absolument pas ce que je regarde en premier. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui m'intéresse, c'est le pays et si le film est neuf. Hein, ça, c'est la première chose dont je m'assure quand je regarde le film. Quand je regarde le film, si le film m'intéresse, je vais fouiller. Voilà.
Et quand vous regardez comme ça un film de quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment vous assurez qu'il y a du cinéma? Qu'est-ce qui pour vous fait cinéma?
Mais d'abord, qui a du cinéma, c'est pas du tout une question que je me pose.
Non.
Non.
Vous
Le mot
posez quelle question
cinéma,
alors?
non, la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Hein, moi, j'attends des événements. Les événements, vous en avez. Je me répète, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais je ne sais pas mieux les formuler. Il y a des tsunamis. Et puis, il y a un oiseau qui se pose sur une branche. Quand vous guettez les oiseaux, vous attendez une journée qu'un oiseau de cette espèce se pose. Il se pose 2 secondes et puis il s'en va. C'est un événement. Entre cette éphéméride et cet inéluctable massif, vous avez une palette très large. Je ne fais pas de distinguo qualitatif. Si ça ne rentre pas dans cette palette large, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'événement, pour moi, ben voilà. Donc il n'y a ni cinéma, ni. Vous voyez ce que je veux dire?
Quand vous voulez dire événement, c'est si j'essaie de comprendre, c'est une espèce de peut-être de creux, plutôt du coup de séisme qui pourrait être un séisme poétique.
Un
On
oiseau,
pourrait
c'est
dire.
pareil, un séisme. Hein.
Oui, mais ça peut être. En tout cas, c'est à un moment donné, cet événement, pour moi, il a valeur d'espace. Enfin, en tous les cas, il est.
On le métaphorise comme on veut. Il faudrait pas le métaphoriser uniquement dramatiquement. C'est pour ça que je parle de l'oiseau et le tsunami, c'est peut-être pas une bonne. Le tsunami, si vous voulez, c'est quelque chose, voilà,
Oui,
qui
enfin,
vous
en tous les cas,
tombe
c'est clair.
dessus. Bon, ça pourrait être une éclipse aussi, encore qu'on peut manquer une éclipse, mais il y a plein d'événements qu'on peut manquer. Justement, ça, c'est l'angoisse de la sélection, c'est de manquer des événements qui ne se signalent pas, qui ne s'anticipent pas eux-mêmes et qui ne se signalent pas forcément aisément. Surtout quand on ne connaît pas les gens, enfin, et c'est quand même massivement le cas de ce qu'on montre, c'est des gens qu'on ne connaît pas, hein, avant. Oui, c'est. En gros, c'est regarder le film et se dire, oh là là, Et si vous voulez, moi, ce qui se passe, c'est que quand on voit, on se dit assez rapidement ça. On se dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Et pourquoi on se dit assez rapidement ça? Parce qu'il y a des films où justement il se produit quelque chose, mais du coup il faut l'avoir vu quasiment en entier pour se dire. Mais, et,
Oui, mais alors ça, c'est après des problèmes peut-être de métier, j'en sais rien. Je sais pas. Mais...
Ah, là, les histoires de durée, en tous les cas, au cinéma, qui peuvent être à un moment donné se révéler aux trois quarts du film.
Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de l'oiseau. Hein.
Est-ce que vous pouvez.
Mais ça, on le... ça, je sais pas comment vous dire, c'est des années, mais c'est un peu. Ça va paraître à la fois peut-être prétentieux, fumeux, je ne sais pas, mais c'est des habitudes. Je vais juste terminer ce que je voulais dire, si vous permettez, c'est qu'on sent quelque chose se concocter, si vous voulez. Alors à ce moment-là, il y a une angoisse qui intervient, c'est est-ce que ça va continuer? Parce que tout d'un coup, il y a des fois où ça s'interrompt. Il y a quelque chose qui se passe et puis le film est gâché, si vous voulez. Ou le film gâché, c'est méchant, mais le film se perd, le film s'oublie lui-même, si vous voulez, ou l'événement s'oublie, s'éloigne. Il y a un moment donné, je traduisais ça sous la forme de contrat. Je disais que tout le film est un contrat avec son projet. Ce projet peut être un objet, un sujet, les fourmis, les vaches, la difficulté d'être, l'amour. Et il y a des bons contrats par rapport à ça, et puis il y a des contrats interrompus. Voilà, donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types de manquements, si vous voulez. Après, pour qualifier bien, c'est plus compliqué.
Vous pourriez nous dire, Jean-Pierre, brièvement, oui, comment se passe l'effervescence de la sélection au FID, hein. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement, cette machine où il y a plusieurs personnes, j'imagine vous êtes nombreux à travailler sur cette question.
Pas tant que ça, parce que enfin on est six, hein. On est six, c'est des gens que j'ai...
Différents chaque année?
Non. Enfin ça peut varier, hein. C'est pas la même équipe depuis le début, mais au début il y avait des gens qui étaient uniquement à la présélection. Et puis, il y avait un comité de sélection. Enfin, moi, je faisais les deux, mais pour ne pas mobiliser le comité de sélection, quand même sur un travail considérable, vous voyez, on reçoit ou, disons, on traite 3000 films. Ça fait beaucoup, hein. Alors, bien sûr, il y a des courts, mais il y a aussi des très longs. Alors... Aujourd'hui, ce sont des gens, à part une exception là, cette année, le comité de présélection et le comité de sélection, c'est le même. Donc ça se passe on regarde les films au fur et à mesure, chacun séparément, pas les mêmes, hein, chacun regarde un certain nombre de films. Si on pense tomber sur une pépite, on communique instantanément entre nous. Et on le regarde ensemble ou séparément, mais on communique. Parce qu'avec les exclusivités, il y a des problèmes d'urgence. Hein, puisqu'on ne montre que les premières mondiales et internationales, il faut se décider vite. Notamment quand on est à l'étranger, quand les uns ou les autres sont à l'étranger, qui voient un film, mettons, mexicain au Mexique, ils disent « Oula, il y a un truc qui se passe ». On se débrouille pour voir le film de façon à ce que... engagement puisse être pris avec le réalisateur, la réalisatrice ou les réalisateurs. Mais sinon, donc on met de côté les films que chacun pense potentiels, à la fois pour les compétitions, mais aussi pour les écrans parallèles, parce que de plus en plus les écrans parallèles sont nourris par les envois. Et puis, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, où de 10h à minuit, on est ensemble sur grand écran là-haut et on regarde la totalité des films retenus par les uns et les autres. Et on construit à ce moment-là les compétitions. En sachant qu'entre en jeu aussi, bien évidemment, considérations... De distribution géographique. On ne peut pas avoir, par exemple, une surreprésentation d'un pays, vous voyez, même si on est quelquefois absolument bouleversé par... il faut faire un arbitrage. Parce qu'il y a aussi des pays qui produisent plus, enfin, vous voyez. En Amérique latine, par exemple, l'Argentine produit énormément de films, beaucoup plus je sais pas, que le Paraguay, l'Uruguay ou la Colombie. Ils produisent très très peu de films. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis après, pas non plus avoir, je sais pas, il arrive quelquefois que deux, trois films parlent ou s'intéressent à la même. Mais ça, on l'a fait, hein, parce que par exemple, il y a une année, il y avait deux films autour de, ou avec, ou Masao Adachi, le film d'Éric Baudelaire et le film de Philippe Henrieux. C'était pas un problème parce que les films étaient, disons, suffisamment distincts, et au contraire, c'était plutôt intéressant d'avoir une espèce de dialogue, d'autant qu'à ce moment-là, le film d'Éric était en compétition française et le film de Philippe en international. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question, mais ce qui est important, c'est que, pardon, c'est que les gens qui font partie du comité de présélection ou de sélection, si vous voulez, c'est des gens, s'ils sont peu nombreux, parce que 6 pour un tel nombre, c'est finalement assez peu, parce que je sais qu'il y a des festivals où il y a 18 personnes, 20 personnes qui passent en revue les films. Parce que moi, ce que je cherche, c'est... Enfin, ça m'angoisse de manquer l'oiseau dont on parlait. Et que je peux être le premier à manquer aussi. Hein, parce qu'il y a une fatigue, il y a une certaine fièvre dans cet exercice.
Pourriez-vous dire peut-être, non, bah, ce film-là, je ne peux pas le montrer au film parce qu'il est trop ceci ou trop cela, j'en sais rien. Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça ?
Moi, justement, je ne raisonne pas. Non, je raisonne. Quand je dis ça, c'est dans des labellisations. Hein. Les MAN, à nous, on dit c'est difficile à montrer. Il y a des jeunes gens, pardon, je reprends Aya Martine par économie, c'est pas guère plus simple quand j'ai montré Two Possible Lovers. Hein. C'était un dispositif de type warholien, c'était deux types, je ne sais pas si vous l'avez vu, deux types sur un canapé pendant 1h10, qui font rien. Et là, on regarde l'autre. Jamais, moi, je dis, ah ben c'est un film expérimental. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Des programmateurs expérimentaux pourraient dire, je reconnais ce film comme étant un des nôtres. Le problème, il est du passeport, de la carte d'identité. Moi, ce que j'essaie de faire depuis le début au festival, c'est de ne pas tenir compte de ce que j'appelle les événements. C'est sans passeport, si vous voulez. Après, la question que vous posez, elle est un petit peu différente. J'ai revu... Alors, zut, j'arrive jamais à prononcer le titre, mais le premier long-métrage de Schroeter, qui a pas... Vous voyez, non ? Bon, je vous invite à le voir. Ce film, il a été montré, je ne sais plus en quelle année, mais à la quinzaine. Je vous garantis, vous regardez ce film aujourd'hui, là, vous apprenez des choses. C'est-à-dire que vous dites, mais qu'un film comme ça a été à la quinzaine, c'est du délire. Moi, je reçois ce film aujourd'hui. Je me dis... la compétition, ça va être quand même compliqué, mais j'ai envie de le montrer. Hein. Mais je sais que je vais exposer mon public à, enfin, je dis mon public, c'est prétentieux, disons le public que j'espère attirer à quelque chose de costaud.
Encore une fois, je l'ai toujours fait.
Et... C'est-à-dire costaud dans quel sens ?
Costaud, ça veut dire que j'ai toujours pensé que les choses ne devaient pas être punitive, qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir s'adresser largement. Encore une fois, c'est pour revenir à l'expérimental, je n'ai pas envie d'un club. Oui, je n'ai pas envie d'un club. J'ai envie de tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que les objets que je souhaite défendre, montrer, partager, me paraissent être s'adresser à tout le monde. Donc, je n'ai pas envie de, si vous voulez, de décourager des enthousiasmes sans faire la pute. Vous comprenez ? Mais il y a des, surtout qu'on sait dans un, enfin en tout cas moi je l'espère, dans un festival qui a une consommation disons consistante. J'ai pas envie qu'un film écarte tous les autres. Après, c'est du dosage, ça.
Et, par exemple, ce film-là, je ne l'ai pas vu, de Schroeter, mais qu'est-ce qu'il y a dedans aussi,
c'est... Oh ben, c'est un film de Schroeter, c'est-à-dire que vous avez essentiellement des passages, enfin des personnages qui font des choses et qui font des faux playbacks sur de l'opéra, ou enfin c'est qu'il y a constamment une bande-son qui est en continu de l'opéra. Il y a des gens qui font des actions qui sont soit reliées vaguement à la scène qui est chantée, soit qu'il n'y a rien à, enfin pas qu'il n'y a rien à voir, mais qui est, où il se passe d'autres actions. Donc, au fond, c'est très opératique, simplement ça se passe dans des décors urbains ou quelquefois en intérieur. Bon, pour moi, je trouve que c'est assez extrêmement, extrêmement important. Justement, quelqu'un qui pourrait être très, très aisément qualifié d'expérimental, qui lui aussi a... Enfin, moi, en même temps, son dernier film, très étrange.
Et comment ça se fait qu'il était à la quinzaine, alors ? Qu'est-ce qui a changé entre-temps ?
Oh, mais ça, c'est pas... Écoutez, vous me demandez expliquer la vie, là. Non, je sais pas. Parce que je pense que l'état de la curiosité générale à l'endroit du cinéma a beaucoup changé. Je pense que la curiosité aujourd'hui, elle est émoussée par un certain nombre de facteurs. Que la quinzaine en était plus proche de son origine à ce moment-là, ça devait être les années fin 70, et que le programmateur jouait un rôle lié à la SRF, si vous voulez. En disant, et puis même Cannes c'était un peu différent, enfin, mais et c'est l'époque où a été montré, enfin, Herzog, c'est exactement les mêmes années, Scorsese, donc c'était pas une volonté de, non, mais ça c'est très instructif. Je vous encourage vivement à regarder ce film et à vous dire, c'était à la quinzaine, donc ça, vous voyez, c'est un problème du coup de distribution de paysage. À une époque où l'expérimental était, il y avait une dignité, comment dirais-je, même dans le club, il y avait une espèce de dignité. Vous voyez ? Pour ça aussi que le club a été possible au début, avec Mécas, les revues. Et puis, ça s'est refermé. Mon analyse a été la même pour le documentaire.
Et le club devient quoi quand il se referme ?
Mais ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ce que j'ai tendance à vérifier, mais je ne suis pas bon juge, donc ne me faites pas dire trop de bêtises, c'est que les productions, à ce moment-là, je les trouve sans surprise. Les productions récentes. Hein. C'est-à-dire que je regarde et je me dis, justement, il n'y a pas d'événement. Alors vous dites, tiens, c'est étrange, parce que la radicalité, au fond, la radicalité, on pourrait dire, c'est ce qui... guette ce qu'il souhaite l'événement, non ? Comme son cœur battant. Plutôt que d'aménager le non-événement en événement.
Et pour vous, elle représente quoi, la sortie salle ?
La sortie salle, elle représente, si vous voulez... je ne souhaite pas... Encore une fois, c'est l'histoire du club. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu FeedLab, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Alors que j'étais très réservé au départ avec FeedLab, parce que je ne voulais pas d'usine à gaz. En fait, c'est en train de marcher du feu de Dieu, là, c'est impressionnant. Là. On a un projet film terminé à Rotterdam, deux à Berlin. L'idée, c'est que pour moi, un festival, c'est du réel, c'est un morceau de réel. C'est pas. Une association d'amis qui s'auto-congratulent, qui partagent un plaisir. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être de A à Z en vrai. Et d'autant plus aujourd'hui qu'on a des discours extrêmement autoritaires sur ce qui serait... comment dirais-je, les vrais critères de qualité ou les vrais critères de je sais pas quoi sur les vrais trucs, parce que le cinéma qui est défendu to stand for, on dit en anglais, j'aime bien, c'est se dresser, se lever aux côtés d'eux, hein, C'est un cinéma dont j'espère qu'il rencontrera, et pour le public et pour le réalisateur, un public élargi, un public des salles. Parce que malgré tout, le public festivalier, il est, alors, cela dit, il est très important. Hein. Si on accumule tous les festivals, les spectateurs que rencontre un film dans les différents festivals, ça fait beaucoup de monde.
C'est peu comptabilisé.
Et souvent plus.
Et c'est peu comptabilisé d'ailleurs.
C'est rarement comptabilisé comme tel. C'est souvent plus. Mais si vous voulez, il y a l'idée au fond de laisser le film vivre, pas tout seul, mais presque, parce que. En tout cas, voilà, d'aller vivre sa vie, quoi.
Et parce qu'on avait commencé du coup la discussion. Voilà, avec cette question de la cinéphilie, de peut-être la fin de la cinéphilie, d'un rapport à la salle qui change. On a fait cette émission autour.
Moi, je vais pas parler de la salle qui change. Hein.
Enfin, en tout cas, voilà, moi je peux le dire. j'enseigne à l'université et mes étudiants, par exemple, ne vont plus tellement dans la salle de cinéma. Et on a fait la dernière émission avec des distributeurs, et ils ont beaucoup de mal à faire leur travail parce que les exploitants n'ont plus le temps de regarder les films, que chaque semaine il y a 24 films qui sortent, que là pour le film de Rassan qui va sortir, pour trouver des salles c'est très compliqué, que les exploitants se disent pour notre public on ne peut pas faire ça. Et on arrive à des films qui font 5000 entrées. Enfin, Cavalier fait 5000 entrées.
Non, mais sauf qu'il y a un discours de la fatalité, David, auquel moi d'abord, si j'y souscrivais, ça ferait belle lurette que je ne ferais pas du tout ce que je fais, ou en tout cas pas du tout comme je le fais. Donc, le discours de la fatalité, je m'y suis toujours opposé. Et j'ai toujours dit, je ne sais pas, vous avez peut-être raison. Mais ça m'est égal. Et donc c'est pas vrai. Je ne crois pas que les exploitants ont moins le temps de regarder. C'est pas vrai. Je ne crois pas que la salle soit morte. C'est pas vrai. Il y a un article, je crois, dans les cahiers, pour autant que je lis encore ce truc, voilà, sur l'archipel. C'est une salle que moi je fréquentais un tout petit peu quand j'habitais à Paris, parce que j'habitais pas loin. Et là, qui a visiblement changé, qui invente des trucs. Non. Je crois qu'il y a un retour à une espèce d'artisanat au niveau de l'exploitation, probablement. Mais en réalité, quand vous y songez, cet artisanat, il a toujours été là. Des grands bonhommes des salles parisiennes qui menaient un combat au Saint-André-des-Arts, etc. Et si moi, je rewind, et ça fait quand même un moment, j'allais dans ces salles-là, j'allais pas dans les multiplexes. Non pas que j'ai quelque chose contre multiplex, mais il y avait beaucoup de monde qui y allait. Et moi, je ne crois pas. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espèce de lassitude, il y a une paresse, il y a un déficit de foi, mais qui ne tient pas aux objets et qui tient, moi je suis désolé, qui tient au déficit de passion. Moi, je suis prêt à me mettre en colère. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se complaît dans le discours de la fatalité et qui n'a pour d'autres mots que la paresse.
Donc vous voulez dire qu'ouvrir une salle de cinéma aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Avoir effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a l'exemple du Vidéodrome par exemple. Une espèce de...
Absolument, enfin, la jauge est toute modeste, mais il y a une énergie là incroyable. Visiblement, il y a des gens. On a une salle ici à Marseille qui est en train de dépérir. Les rares fois où j'y vais encore, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de monde. Pas simplement parce que. Mais comme si. Non, mais tout à fait, non. Et vous dites, mais c'est pas possible. Donc, et ça, c'est pas la fatalité, c'est parce que.
Ça tient effectivement à des hommes, à en tous les cas.
Un contexte. Complètement. Et que je vous dites, il y a un projet qui se met là, je vous garantis qu'il faut remettre un peu. D'huile dans le moteur, mais ça repart. Je ne crois pas.
C'est quelque chose que, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais cette question-là de la salle de cinéma à Marseille, est-ce que c'est quelque chose qui a effleuré votre esprit?
Bien sûr. Mais
est-ce qu'il
continue
à effleurer? Parce qu'il y a eu moult projets qui ont été.
Non, mais moi, je sais très bien que s'il y a une aventure, là ou dans le projet là-haut, moi je vais tout de suite voir les gens en disant nous on est partie prenante. et on se propose d'être force de proposition. On a de la ressource en film et humaine, et je propose même des types d'animation, des rendez-vous, des. Mais bien sûr, mais pour les mêmes raisons que me tient à cœur que les films qui sont sélectionnés ici sortent en salle et rencontrent un public. C'est pas juste. Bon, après, je correspond. Vous savez, par exemple, on parlait tout à l'heure du Wang Bing, c'était 2003, je crois. C'était l'année de la grève, je me souviens bien, puisque le Grand Prix lui a été remis sur le trottoir. Il y avait Grégory Gageot, d'Ad Vitam. Et il me dit, Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez me faire la liste des films que vous estimez potentiellement faire une sortie salle? Et je dis non. Il dit pourquoi? Je dis parce que vous n'allez jamais m'écouter. Alors je n'ai pas peine que je vous fasse une liste, puisque de toute façon, vous n'allez pas tenir compte de ce que je vous dis. Il me dit pourquoi je ne tiendrai pas compte de ce que je vous dis, de ce que vous allez me dire? Et je dis, je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier sur ma liste, il fait 9 heures. Il dit, faites votre liste. Donc je fais ma liste, Wang Bing. Il m'appelle 6 mois après. Jean-Pierre, je sors le film en salle. J'avais la chair de poule. Quoi, 3, 4 mois. Je l'appelle, je dis, Grégory, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Et puis comment vous les montrez, etc. Il me dit, écoutez, en province, c'est une catastrophe. À Paris, c'est vraiment très bien. Ça se passe très bien. Puis il me dit, j'ai une bonne nouvelle, MK2 achète le film, il sort en DVD. Un mois après, j'ai un coup de fil de Chine. On veut vous inviter dans un festival, etc. Ils avaient tous piraté le DVD. Ils savaient que le film était sorti en salle et il y avait eu ce chemin pour un film de pété, je veux dire. Oui, 9h, les usines, etc. Il y a un mec assez pété pour mettre ça en compétition et que ça a ses effets. Bon, et alors j'arrive dans un truc, un campus universitaire, il y avait l'ombre des fleurs qui se projetaient sur les écrans, on était 40, enfin. J'avais envie de pleurer, mais à la fois d'émotion. Et des gens se disaient, bon, bah, alors moi je suis dans mon coin, je dis, mais comment vous gagnez votre vie? Parce que t'avais un graphiste, je sais pas, il venait de tous les coins de la Chine, et il souhaitait que je sois là. Bon. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est ce que j'appelle le réel. Si vous dites, c'est perdu, ou c'est le commerce qui dit, peut-être, si vous renoncez à vous battre à cet endroit-là, bah vous laissez, justement, pour Cannes, vous autorisez à ce qu'il n'y ait plus du tout d'altercation, d'inquiétude.
Vous êtes impliqué, justement, au moment du passage au numérique, notamment dans les salles, etc., aux difficultés, parce que je crois que ça a été compliqué, quand même, pour les exploitants, etc. Ouais. Est-ce que vous aviez eu des avis là-dessus? Vous êtes un peu plongé dans le pourquoi, ou pas du tout?
Non, assez peu.
Il y a eu des débats, nous on a fait une émission notamment à Paris, il y a eu des rencontres qui ont été faites au moment du réel par exemple, sur ces questions-là qui préoccupent tout le monde bien entendu.
Alors là pour le coup ça me paraissait un peu une fatalité, la question me paraissait plutôt de pouvoir préserver, et c'est difficile, des équipements mixtes, c'est-à-dire qu'il est quand même pour moi hyper important de pouvoir présenter des films qui existe encore en 35, en 35. Et on le fait un peu au festival. Il y avait aux variétés un projet 35, on était même prêt à, dont on est prêt à payer la réparation, ça n'intéressait pas. Donc par exemple, sur cette salle, c'est que du numérique. Et ça, du coup, ça me pose des contraintes, moi, de programmation. Après que ça. Bon, ça, j'avoue que ce que je trouve triste, c'est le sens unique, voyez, l'autoritarisme de One Way. Voilà. Mais après, et les difficultés, je les respecte. Enfin, mais j'avoue que j'avoue que mon ignorance sur le détail de ces difficultés.
Jean-Pierre M, vous parliez de l'importance pour vous de la salle, comme pour beaucoup. La question du spectateur, donc, elle est primordiale dans le cinéma. Par rapport au feed, quelle est la place, à votre avis, du spectateur et quelle importance il a à pouvoir être acteur en même temps, à la fois de voir le film, mais aussi de ce qui s'y passe, de ce qui s'est changé autour des films Est-ce que c'est une question importante?
Je vais dire des choses choquantes peut-être. Mais contrairement à ce que j'ai encore lu récemment, je ne sais pas où, qu'un film qui n'est pas vu n'existe pas. Je n'y crois pas du tout. Alors là, c'est peut-être mon aspect rétrograde. Il y a eu tellement de livres qui n'ont pas été lus. Je veux dire, Roger le Noir, je ne sais pas, il en a vendu combien? 50, Stendhal. Rimbaud, il a vendu. Bon. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est les films. Et après, bien heureux les spectateurs qui les rencontrent. Donc, moi, j'ai envie de faire le maximum de bienheureux. Mais ce n'est pas ces futurs bienheureux qui comment je vais les unifier, comment je vais les qualifier, comment je vais les... Après, c'est une abstraction dont je refuse de faire un a priori. En tant qu'a priori, elle est une abstraction. Après, c'est une réalité, si vous voulez, mais qui est mobile, dont je ne sais rien.
Donc le fait de
et donc je refuse de rien savoir.
Le fait de voir des films ensemble dans une salle de cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, fait sens? Enfin, ou c'est pas un aspect très important de... Donc qu'est-ce qui est important en fait pour que, enfin, vous parlez de la salle de cinéma, qu'est-ce qui est...
Ben parce que je pense que la salle de cinéma, c'est le bon format, y compris pour être seul. Pour être seul avec le film, je veux dire. Chez soi, on est d'abord chez soi et le film, c'est un élément du mobilier. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave. Mais j'aime bien cette idée de la salle comme une espèce de chose un peu régressive, luxueuse. Oui, luxueuse. Au fond, je crois que c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il y a la salle de cinéma, c'est la démocratisation pour moi du lustre de la salle de l'opéra.
Parce que les cinéastes quand même sont invités au film.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est différent parce que c'est la première fois qu'ils montrent leur film. Donc pour eux, c'est très... Non, mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que c'est nul et non avenu. Je dis que dans l'importance pour moi de la fabrique des films, ce sont les films. Et que je m'oppose aux diktats extrêmement contraignants et mensongers en réalité, qui dit il n'y a pas de film s'il n'y a pas X spectateurs, s'il n'y a pas un consensus. S'il n'y a pas 300 000 entrées sur un film, il n'y a pas de film.
Hein? Enfin, un festival, ça veut dire aussi fête, un peu fête.
Bien sûr.
Du cinéma, donc mais ça veut dire aussi un public, ça veut dire...
Ah oui, mais la fête, pour moi, c'est la fête, vous pouvez faire la fête avec quelqu'un, et tout, à deux, hein, la fête à deux. Et cette fête à deux, c'est d'abord vous et le film. Et après, ce qui est beau, c'est quand on a fait cette fête à deux, pour moi, la vraie fête, c'est de continuer, de prolonger cette onde de choc avec d'autres qui ont rencontré plus ou moins la même chose et qui ont la chance, ou pas forcément, mais d'échanger avec le réalisateur qui est là. Et lui a la chance, parce que c'est vrai que c'est rare, comme vous le savez, hein, qu'un cinéaste rencontre des spectateurs. Donc c'est... moi, il y a un côté, vous voyez, dans le cinéma qui a toujours été Noli me tangere. Ce qui me touche particulièrement, et ça c'est autobiographique, mais tant pis, dans le cinéma, c'est que je suis épargné de la gravité au sens gravitationnel, de la rencontre obligée, contrainte avec des corps. C'est-à-dire, en gros, le théâtre. Hein, où je me retrouve en position quand même difficile de dans une structure quand même très étrange, d'observer des gens faire des choses à leur risque et péril. Et vous êtes toujours, vous, au fond, en train de guetter. Il y a quelque chose du risque hein, dans le théâtre. Il n'y a pas du tout au cinéma.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail d'écriture sur le film ?
Eh bien,
Ça répond à quelle nécessité ? Et est-ce que vous lisez d'autres textes critiques ? Et qu'est-ce que vous pensez de l'état de la critique ? C'est une question large, mais aujourd'hui.
J'aime beaucoup écrire sur les films. C'est une manière pour moi de... Il m'arrive hein, d'ailleurs de voir des films au festival et de me dire oula, oula. Maintenant, j'ai pas le temps d'y réfléchir. C'est très très important ce film. J'ai pas le temps d'y réfléchir parce que c'est pas le moment. Je suis en train de faire autre chose. Mais il va falloir que je me pose et que je mette au clair tout ce que je sens en jeu dans ce film. Donc l'écriture, au fond, c'est me mettre à jour sur ce en quoi ce film a fait événement pour moi, même si très souvent, d'ailleurs, au moment où ça m'arrive, l'événement reste très secret. Même secret pour moi, je veux dire. C'est-à-dire, je ne sais pas toujours comment démêler les fils, et ça m'arrive à de nombreuses reprises. Hein. Par exemple, Roy Rosen, quand j'ai vu Confessions of Roy Rosen, en plus, c'est un film que j'ai vu à toute fin de la sélection, j'étais mais, complètement saisi en me disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? J'y comprends rien, mais je sais que c'est très très important. » Et après, me dire « Bon, tiens, je vais... » Voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est dénouer ce qui m'a été offert et qui reste un peu opaque et avoir envie de le partager, ça. Mais d'abord pour moi, essayer de mettre à plat, de déplier l'émotion, hein, au fond. Et après, l'évaluation des films ne m'intéresse pas du tout, en aucune façon. Le sport... qui consiste à mettre des étoiles et...
Donc, la critique vous plaît quand le film vous en tous les cas vous intéresse en tous les cas, vous n'allez pas, j'allais dire, écrire sur un film que vous n'aimez pas.
Il y a un truc que dit Deleuze, il dit on ne devrait jamais écrire sur des choses qu'on n'aime pas. Il dit ça à propos d'un livre de Fernandez sur l'opéra. Moi aussi. À part, et en fait je ne l'ai pas fait, sur des films où j'ai l'impression qu'il y a des malentendus et qui tout d'un coup font l'unanimité, et je trouve qu'il y a un scandale, et que j'ai envie de marquer mon désaccord fermement. Comme par exemple, c'était le cas pour The Look of Silence, je crois, le film de... Oui, exactement. Je sais pas, vous l'avez vu ?
Non, je l'ai pas vu.
Vous l'avez vu ? Bon, donc, en plus, il y a eu une suite, vous savez, et puis je crois que le film était nominé aux Oscars, enfin... Donc où là, il y a une espèce d'effet mais massif d'adhésion, là où je pense qu'il y a une crapulerie, même d'une certaine façon involontaire. Hein. Mais voilà, et encore, je ne l'ai pas fait. Je m'étais engagé à le faire, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais oui, c'est ça.
Et vous lisez où la critique aujourd'hui ?
Je la lis trop peu, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de films à voir. Et puis je préfère du coup me nourrir dans d'autres choses, des livres qui sortent, mais ça peut être aussi des moins la critique que des livres en fait qui sont liés au cinéma ou pas. Mais et puis je crois que sur les blogs il y a des choses, j'ai l'impression, mais ça prend vachement de temps de lire tout ça si on le fait avec un peu d'amour, c'est un peu patiemment. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et j'en manque. J'aime pas dire ça parce que c'est toujours en fait, une excuse, ça. Mais non, j'ai l'impression plutôt qu'avec justement Internet, il y a eu aussi une espèce de comme avec les nouveaux outils, de permission, d'autorisation, très, très littéralement, à qui souhaitait. Et j'ai l'impression qu'il se fait. Plein de choses justement scrupuleuses. Je veux dire que dans les choses papier, Je trouve pas mon compte, quoi. Enfin, je suis injuste, parce que là, il y a une revue qui vient de sortir. Je suis curieux de... Vous la connaissez, non?
De nom, mais j'ai pas vu encore.
Je suis curieux de voir où il se situe. Non, ça me paraît très important. Je pense encore qu'il y a une espèce de pente qui est celle de l'évaluation. Vous voyez, j'aime et j'explique pourquoi j'aime. Non, explique-moi plutôt comment ça fonctionne, comment tu penses que ça fonctionne, plutôt que pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je suis plutôt du côté de la mécanique, mettre la tête dans le moteur et dire ça, c'est intéressant parce que vous avez vu, là, il a mis le truc, c'est inattendu comme, comme procédure. Ça m'intéresse plus que de justifier. Oui.
Et moi, j'ai une question, c'est sur la circulation des films. Enfin, j'ai une amie, Anna Roussillon, qui a fait un film...
Je suis le peuple.
Je suis le peuple. Elle a fait 80 festivals, 30 prix. Le film est bon, mais ça m'interroge. Pourquoi un film prend tout l'espace comme ça des festivals?
Il prend pas tout l'espace, quand même. C'est un film sur... nous l'avons montré, comme vous savez, ici aussi. C'est un film sur X. L'année dernière, on avait 150 films. C'était un film sur 150. Je pense que c'était un regard porté enfin, sur cette révolution et c'est déjà cette désillusion vue d'un tout autre... Enfin, vous le savez, vous avez vu le film. Je pense qu'il était un peu... Et puis le long cours, Homeland, d'une certaine façon, est comparable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Iraq Near Year Zero, qui est... il va passer au Mucem.
Il est passé.
Ah, ça y est. Et ben, c'est un film pareil qui était dans je sais pas combien de festivals, qui a ramassé énormément de prix. Et ce ne sont pas forcément, disons, les films pour moi les plus saillants, mais c'est pas grave. En tout cas, je refuse de croire que ces films-là font de l'ombre ou obstacle à d'autres films. Ça, c'est pas vrai.
Tu veux dire, c'était plus sur la manière dont les films circulent?
Non, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est un bon film. Mais je me suis dit, si la télévision publique avait du sens, c'est ce film-là qu'elle devrait passer.
Oui, mais et plein d'autres, hein, David. Hein.
Plein d'autres. Mais et c'est pas l'espace des festivals qui, pour ce... On parlait de Schröter. Pour moi, voilà, l'espace d'un festival, ça serait des films tels que ceux de Schröter, qui, parce qu'à la télévision, ils n'ont pas d'espace, parce que...
D'abord, pour moi, vous voyez, il n'y a pas l'alternative festival-télévision. Si on parle de la télévision comme producteur...
Ah non, c'est fini. Ouais.
Comme producteur et donc comme diffuseur, c'est-à-dire qui va rendre le film possible à des fins de diffusion, hein, alors parlons de télévision. Mais quant à une diffusion télévision, honnêtement, moi, ça m'est égal. J'ai l'impression que c'est un outil de commande désuet. Mais peut-être je ne suis pas... Je n'ai pas la télévision chez moi.
Je pense
que c'est facile de dire. Voilà, il y a Internet, enfin les gens... Alors, il y a peut-être encore... Justement, peut-être encore beaucoup de gens qui regardent la télévision, je ne sais pas. Mais est-ce que les objets varient? Je ne sais pas. Je n'ai jamais cru à l'efficacité de la télévision, mais peut-être je me trompe énormément. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un objet vieux... Après, que la télévision puisse être interlocutrice pour permettre les films, j'y insiste, oui, voilà. Ils ont de moins en moins d'argent, comme vous savez. Ils en ont encore un peu, et y a des gens courageux qui interviennent malgré tout. Il faut aussi dire des choses hein, sur même les unités de fiction, et, sur par exemple le film de Miguel. Bon, évident, hein. Arte, je crois, y était, et a rendu cette trilogie possible. Et après, le rôle des festivals, David, dans cette diffusion alternative qu'ils sont devenus d'une certaine manière malgré eux, doit aussi permettre je crois, un athéisme ou en tout cas un polythéisme. Et donc, y a des films qui sont moins radicaux que d'autres. Mais qui ont leur sens à être montrés.
Je fais quelques festivals et j'entends ce mot-là de pour mon public, ça, je sais pas si je pourrais le montrer, c'est trop difficile. Enfin, je me dis, bon, c'est une autocensure que les producteurs se donnent,
Les programmateurs.
que les programmateurs, mais aussi les producteurs, que les diffuseurs.
Oui, mais je suis d'accord avec
Et
vous.
ça finit par le réalisateur qui se fait sa propre
Ah oui,
autocensure.
mais ça.
Et c'est ça, et ça
Et
fait
vous
pas
m'avez
du
jamais entendu tenir ces discours.
Non, je ne vous ai jamais entendu contre ces discours, mais c'est quelque chose quand même qui est présent. Peut-être, enfin si, bah, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au film de Schroeter.
Non, j'ai dit, je me posais la question, et ce qui était troublant, c'est de voir que c'était un film d'il y a presque 40 ans, et qu'il était dans une section à Cannes enfin, qui était configurée, je le répète autrement. Mais on se dit, mais c'est du délire, quoi.
Mais ça voudrait dire que le niveau d'acceptation du public serait...
Non, c'est pas...
C'est pas le niveau d'acceptation du public, c'est si vous voulez ce qui est lancé dans les canaux. Les gens qui impulsent ça ont de plus en plus peur, mais à commencer par eux, parce que moi je crois que c'est ça. Mais quand on dit mon public, en réalité, c'est un mensonge, c'est moi. Pour ça que moi je vous dis, les spectateurs, et j'espère que vous avez bien compris ce que j'essaie maladroitement de dire. Quand je disais qu'au fond, ce qui comptait pour moi, c'était le film, avant toute idée, du spectateur. Et ça, si vous voulez, je raconte toujours l'histoire, et vous la connaissez, de numéro zéro. Hein. Voilà. Stage qui dit, ben, je ne vais pas me battre pour sortir ce film. Si je demande à 10 amis, qu'il y en a 5 qui viennent sur 10, ça n'intéressera personne. Et après, quand 30 ans après, on fait la première mondiale ici, je rentre, c'est à la Criée, elle était blindée, hein, donc il y avait, je sais pas, 800 personnes. Je rentre dans la salle avec Pedro Costa, qui me dit, t'inquiète pas, il y a la moitié qui seront sortis à la moitié du film. Je dis, bon, je te remercie, Pedro. Et c'était faux. Personne n'est sorti. Et il y avait Jason Queux dans la salle, qui est resté 2 heures à regarder un film non sous-titré. Donc, et après, je dis, Jason Queux, mais vous vous souvenez du film, c'est la grand-mère qui parle pendant 2 heures. Et elle me dit, c'est un grand metteur en scène. Pourquoi c'est un grand metteur en scène? Eh bien, c'est lui, il geste sur la table. Je dis, ok, bon, c'est bon, allez. C'est lui, Jason Queux. Voilà comment un type regarde des films. Après, vous regardez ses films et vous comprenez que tout type, il est capable de regarder une mémé et parler pendant 2 heures et de se concentrer sur ce... Ça, c'est une vraie leçon de cinéma. Hein. Et le film, pardon, après, il était en festival, il a fait une sortie salle. Donc, le film de Stage qui a été fait en 73, il a rencontré... Il n'y avait pas de spectateurs. Il y avait 5 spectateurs en 73 et il en a rencontré plein 30 ans plus tard. Donc moi, je refuse complètement le fatalisme de dire ah ben là. Après, c'est vrai qu'il faut il faut pas après on peut pas je veux dire c'est vous voyez c'est il faut c'est comme si on prépare un repas vous avez envie que les gens soient bien et vous leur dites bon, moi je suis désolé je vais vous faire bien à manger. Et on peut mettre le dessert avant, on peut bouger, mais à un moment donné, même si vous faites ça, faut faire un peu gaffe. Si vous commencez par la choucroute, il ne faudra pas vous étonner que, vous voyez, que après, pour le petit truc de foie gras en entrée, je dis n'importe quoi, ils vous disent, bon, je cale. C'est un problème d'estomac, si vous voulez. Ce n'est pas un problème après de... Mais d'estomac dans l'économie d'un festival, pas en soi. Parce que justement, le festival, c'est ces deux choses, c'est de dire je défends des objets singuliers en tant qu'objet singulier, donc je refuse de me priver d'eux, vous comprenez? Genre Possible Lovers. Ma question, plutôt par exemple avec Possible Lovers, c'était est-ce que je mets en compétition ou hors compétition? Est-ce que ça a aidé le film? Qu'est-ce que ça a changé? Comment le jury allait me détester? Il y avait le membre du jury qui m'a dit après, mais non, mais Jean-Pierre, ça c'est plutôt une installation. Je dis non. Non, c'est pas une installation, c'est un film. Ah, vous croyez? Je dis, c'est pas, je crois. Rien, il n'a pas fait une installation, il a fait un film. Après, peut-être, ça peut être montré en installation, vous avez tout à fait raison. Mais l'expérience de la salle, c'est lui qui l'a décidé comme ça. Après, vous avez absolument le droit de vous endormir, de détester. Mais c'est une proposition filmique. Et de le mettre en compétition, c'était aussi signaler ça, vous voyez, globalement. Mais en sachant qu'il faut faire attention avec ce qu'il y avait à côté. Si je mets en compétition que ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va s'écraser. Et donc, aucune de ces singularités ne va être visible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, par exemple, pour ça que, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé de réduire la CI, c'est plus que 15 films. Et pas parce que j'en ai moins, etc., parce que je me suis dit, c'est pas bien. Le jury, il faut qu'il puisse respirer et accueillir chaque film comme, ok, ça recommence. Et pas, il en reste 5 à venir. Vous voyez ce que je veux dire?
Jean-Pierre aime vous poser de nouvelles questions qui sont... comment, du coup, quand on se place comme un grand festival comme le FID à devoir, quelques mois avant, sélectionner des films, comment rester frais? Comment rester frais avec une équipe que vous dites
vous la même? Vous personnellement
Non, quand vous dites une équipe, regardez la même, enfin, étant la même, comment on se renouvelle? Comment on risque d'avoir finalement de faire filtre, j'allais dire, à ce qu'il faut, à ce qu'on devrait montrer au public? Et du coup, comment on se remet en question? Comment on a cette vigilance-là, à un moment donné, de se dire, est-ce qu'on n'est pas finalement une petite chapelle où on va sélectionner nos films et puis on va dire aux gens ce qu'il va falloir qu'ils regardent finalement? Non, je fais exprès.
Attendez, là, vous mettez le doigt sur une question tout à fait décisive. Moi, je suis convaincu d'une part qu'une forme de pérennité est plus qu'utile, à la fois, je veux dire, à la direction des festivals et dans les équipes, parce que c'est un métier suffisamment chaotique pour que un peu d'insistance soit favorable. Après, tout ce que vous avez pointé, ce sont des risques absolument objectifs et je n'ai pas de recette pour y parer, sauf une révolte qui viendrait, alors légitimement peut-être, ou des spectateurs, pour le coup, qui diraient, mais vous nous faites chier.
J'allais dire, par exemple, prendre le risque de faire entrer une ou deux nouvelles personnes chaque année dans votre comité de sélection, par exemple.
Mais d'une certaine façon, le comité de sélection bouge, parce qu'il y a des gens qui s'en vont, d'autres qui souhaitent arriver. Donc, le comité de sélection a quand même bougé sur ces dernières années. Mais là encore, si vous voulez, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a une question de confiance. Faire entrer des gens nouveaux, pour moi, c'est très initiatique, parce que vous leur confiez une grande, grande responsabilité.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rôle plus pas plus important, mais en tous les cas, est-ce que vous avez l'impression d'une pièce maîtresse parmi ce comité de sélection? Sans entrer dire que vous ayez plus d'importance, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites...
Non, j'assume de prendre des responsabilités qui sont les miennes. Et je pense que c'est bien que quelqu'un les prenne, ne se cache pas ni derrière un vote ou qui se résoudrait de façon numérique. Moi je pense que c'est bien de...
Ça bataille quelquefois donc au niveau des sélections
Oui, on est... j'espère bien qu'il y a du désaccord et j'espère être convaincu autant que convaincre mes camarades et puis... mais si vous voulez, c'est un désaccord qui se fait toujours sur fond de... Enfin, où l'enjeu c'est toujours... Justement, comme par rapport à écrire, de déplier pourquoi on pense que c'est important de montrer ce film, ou inversement, pourquoi on pense que ce serait une erreur. Et justement, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'écoute beaucoup, vraiment, je crois qu'il y a un vrai respect. Le fait que, par exemple, j'assume des responsabilités, je ne pense pas que ça soit pris... Je ne sais pas. Mais ça, c'est... Encore une fois, il n'y a aucune règle. Un festival, très souvent, ça ne s'est pas bien saisi, et c'est normal d'ailleurs, et je ne m'en plains pas, mais c'est extrêmement fragile parce que c'est fait d'individualité et qui construisent leur rapport et qui ne cessent de le faire, je veux dire. Et ça, c'est très, très beau, je trouve. C'est aussi la fragilité, c'est-à-dire vous changez des éléments. Moi, dans l'équipe, enfin, si on bouge des pièces, je sais que ça va me faire souffrir. Il y a des fois, c'est arrivé, parce qu'il y a eu des congés maternité. Ben, c'était des effrois pour moi. Parce que c'est des singularités, vraiment.
Qu'est-ce que signifie pour vous la compétition dans un festival, dans ce festival-là particulier? Enfin, pas particulièrement, il y a des festivals où il n'y a pas de compétition, comme l'USAS, par exemple. C'est quelque chose qui pose question, mais...
Pas pour moi.
Justement, c'est pour ça que l'intérêt de savoir...
J'ai hérité du fait que le festival était compétitif, et je ne savais pas trop quoi penser. Et en fait, j'ai trouvé ça vite extrêmement important, parce que c'est, au fond, c'est pas mettre les films en compétition entre eux, c'est faux. Même si c'est vrai, dans les faits, il y a certains qui sont primés et d'autres pas. Le vrai rôle d'une compétition, c'est de surexposer un certain nombre de films. De dire, nous, on s'engage avec ces films-là, en disant... cette année, ça nous paraît très important. Ces films-là nous paraissent très importants. D'où ce que je disais par rapport au film de Ryan Martin. La question, c'était ce film-là, est-ce que c'est... Voilà. Et quelquefois, on fait des erreurs. Comme je dis, on laisse passer des événements, on les manque. Et quelquefois, on met hors compétition des films qui auraient pu... voilà.
Et selon vous, y a pas quelque chose qui... ça donne une couleur, une teinte à un festival, forcément une compétition. J'allais dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une émulation à un endroit, autant à travers le public qui pourrait se dire « Merde, tiens, j'ai loupé tel film primé, etc. » Bon, on sent qu'il y a quand même une espèce de... dans un monde où tout est beaucoup lié à la compétition, on pourrait se dire qu'à un endroit...
Oui, je comprends bien l'argument. Je comprends bien l'argument, mais si vous voulez, pour moi, c'est un rôle... la compétition ça souligne la ligne éditoriale, ça la rend extrêmement claire.
À votre avis, sans compétition, c'est moins possible?
Pardon?
Sans compétition, c'est moins possible?
C'est beaucoup plus compliqué parce que
je veux dire, une critique très, très, très étayée, par exemple, sur un film qui serait, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe vraiment à l'USAS, mais des films qui sont sélectionnés et vus à l'USAS, en quelquefois tribune, enfin je veux dire, on prenne une certaine importance quand même, alors peut-être moins de manière.
Que des films qui soient passés par l'USAS aient bénéficié de l'USAS pour une suite. Il n'y a pas de programmateurs étrangers particulièrement qui vont, que je sache, hein, qui vont à l'USAS. Le FID, en quelques années, alors qu'il est économiquement d'une taille extrêmement modeste, hein, si on compare à des manifestations auxquelles vous avez aussi participé, David, à Berlin l'année dernière, c'est sans commune mesure. Non eh bien, aujourd'hui, le FID, il est prescripteur. C'est-à-dire qu'un film qui est sélectionné, il n'y a pas d'obligation, mais il a de très très fortes chances de circuler presque aussi intensément que le film d'un Roussillon. Hein, par exemple, le film d'Éric Baudelaire que j'évoquais tout à l'heure, je ne sais pas combien il a fait beaucoup plus de 80 festivals, et plein d'autres films d'Assène Fernier en point dans ma tête. Il c'était juillet, on est en février, il a déjà fait, je ne sais pas, il a ramassé 2 prix par festival où il était. Et il va sortir en salle en mars. Ça, c'est très important pour moi que, justement, indépendamment des effets de volume, de puissance de frappe, de communication, d'ancienneté, de haut-parleur, un festival qui, je crois, j'espère, ne renonce pas sur une vraie curiosité, je parle du film, sur une vraie curiosité, une vraie attention à la production contemporaine, indépendamment de critères dits d'audience, ou, etc., soit autant surveillé. Et quand j'ai surveillé, ça veut dire que dès que la line-up, dès que la sélection, et ça vaut pour pas simplement pour les compétitions, mais c'est vrai que les compétitions, si vous voulez, c'est un indicateur. Ça veut dire que les programmateurs, sur 150 films, ils ne voient pas tout. Même si moi, je suis toujours très content de voir que les gens ont une vraie curiosité et vont voir aussi hors compétition et trouvent des choses magnifiques qu'on leur propose aussi hors compétition. Parce que hors compétition, c'est pas une sous-compétition, c'est quelquefois, comme je vous disais par exemple, pour les films brefs, il y a des fois on se dit, il est super ce film. Alors des fois on se dit, bon, on va lui proposer d'être hors compétition. Et franchement, ça me fait mal au cœur parce que je lui dis, je lui bousille sa première mondiale. En même temps, on va le servir correctement, je veux dire, le film, on ne va pas le maltraiter. Mais il aurait mieux valu pour lui d'être chez nous ou ailleurs en compétition. Parce que les programmateurs vont regarder ça paresseusement en premier, quoi. Donc pour moi, la compétition, c'est un geste de communication au bénéfice des films. Et c'est un geste de clarification de la ligne éditoriale.
Et en même temps, c'est pas parce qu'un film est en compétition qu'il va circuler.
Non, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'automatisme. Rousseau, pardon.
Accosté d'Olivier de Rousseau, par exemple, qui était en compétition. Enfin, après, j'ai pas l'impression qu'il a tellement circulé.
Non, mais alors ça, c'est.
Qu'est-ce qui fait qu'un film circule ou pas? Vous savez?
Non, pas. Disons, il y a des choses où je sais, des obstacles qui font qu'il y a des films qui ne circulent pas. Ou moins. Par exemple. Plusieurs reprises, il nous est arrivé de nous dire avec l'équipe, voilà, le film. Là. Et je parle essentiellement de la compétition française. En fait, on se rend compte qu'il y a, c'est pas toujours vrai, mais souvent, quand ça parle trop, il y a quelque chose à l'étranger qui y a une certaine interruption.
Ça peut dépendre de la production aussi et ensuite de la volonté des producteurs de porter le film aussi en plus, ou du travail qui est fait derrière, non?
Bien sûr, vous avez raison, mais là, à chose égale, je me rends compte quand il y a une, et puis quelquefois des choses un peu complexes où la complexité passe par la bande son, enfin par plutôt la liste de dialogue, je me rends compte que ça peut être des obstacles. Mais vous voyez, inversement, Toponymia, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Jonathan Perrel, qui est un film complètement, sans dialogue, qui est le film argentin qui était en compétition l'année dernière, que j'ai vu moi au Bafici, qui était hors compétition. Que j'ai pris en première internationale au Bafici, ce film n'intéressait mais personne, quoi. Il a eu le prix Caméra ici et le film il est partout, là. Et c'est intéressant parce que Jonathan, j'avais vu tous ses films avant et je trouvais ça très beau, mais il y avait quelque chose me manquait et là je me suis dit, ah, là il a fait un film fond.
Et donc ça veut dire que c'est pas seulement le film, c'est aussi là où il est vu, comment il est vu, qui fait qu'après il circule ou pas.
C'est encore une fois, il y a pas de secret, mais je.
La critique compte aussi.
La critique compte quand elle est, par exemple pour le film de Perrel, il y a eu tout de suite de la prose critique. Hein, dès le film, il y a eu une production importante et multilingue. Espagnol, anglais, français sur ce film, et ça je sais que ça du coup il y a des gens qui déjà les gens le voient.
C'était le cas pour Mille Soleils aussi, vraiment, je pense, qui était pas mal porté par la presse.
Mille Soleils, est-ce que c'est c'était porté par la presse nationale. Là en fait je me rends compte que la presse en ligne internationale dans joue plus. Alors si vous voulez, ça aussi c'est des trucs de cuisine. La presse nationale joue assez peu. La presse papier nationale, pour une diffusion ouais. internationale.
Ça peut jouer pour une sortie en salle.
Ça, absolument. Mmh. Bien sûr, ça la favorise. Mais généralement, vous avez cette presse très présente quand il y a la sortie nationale. Le film de Mathilde a eu beaucoup de presse au moment de la sortie. Il a eu la presse quand on l'a montré. Il a été remontré après ailleurs, je ne sais plus, en France. Mais c'était surtout au moment de la sortie.
Les pages dans Libé, c'était au moment de...
Elle a eu deux fois, je crois. Elle a eu deux fois, ce qui est assez rare.
Ça m'a interrogé. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après ?
Il y a eu au moment du feed, je sais. Ouais. Et puis après, il y a eu beaucoup au moment. Mais comme vous le savez aussi bien, même quand on a beaucoup de presse en national en papier, ça ne suit pas forcément. Si on prend l'exemple de Miguel, il a eu quand même une couverture considérable à Cannes et après, au moment de la sortie, qui suivait de peu quand même. Les chiffres sont sans comparaison avec Tabou, par exemple.
Et pour vous, quels sont les festivals qui ont une affinité avec le FID ?
Oh, pas mal. Vous
pourriez en citer.
J'ai peur d'en oublier, Doc Lisboa, par exemple, qui depuis peu a une nouvelle équipe formidable et qui sont en train de préciser, d'aiguiser leur ligne éditoriale de façon extrêmement intéressante et puis qui justement font un travail public qui me paraît tout à fait important. Il y a un tout nouveau festival au Portugal qui s'appelle Porto Postdoc, donc c'était cette année la deuxième édition, et Villa do Conde, mais c'est que du court. Le BAF ici à Buenos Aires, mais il y a la nomination de nouveau directeur là pour la prochaine édition, donc il y a beaucoup d'expectatives. Il semble que ça... Comme je vous disais, les festivals sont au fond des organismes vivants, donc dès qu'on bouge les choses, ça peut rapidement changer. Il y a la Viennale à Vienne, ça c'est exemplairement un festival non compétitif, absolument délicieux, parce que pour le coup, tout le monde est en dehors des angoisses que créent les compétitions. Ah oui, c'est important aussi les compétitions, pardon, ça paraît paradoxal au moment où je suis en train de dire l'inverse. Mais au fond, les membres du jury qui sont toujours choisis avec soin sont aussi des ambassadeurs du festival et des compétitions. Et je sais que ça, c'est très très important. Par exemple, Denis Slim du...
Ça ne pourrait pas se faire à la sélection.
Pardon ?
Je dis ça ne pourrait pas se faire à la sélection.
C'est-à-dire ?
J'allais dire de forger des équipes comme ça qui sont au moment du jury.
Mais c'est trop long, on ne pouvait pas mobiliser les gens et puis leur faire partager des discussions. Au contraire, vous ne pouvez pas les amener à faire la cuisine. C'est pour reprendre la métaphore du repas. Si vous invitez des amis, c'est pas la même chose. Vous passez un week-end gastronomique et vous pelez les patates, vous allez chercher l'eau, etc. Et de leur dire, asseyez-vous, on va manger. J'ai plutôt envie d'accueillir les gens sans forcément cacher les cuisines, mais pas les mettre au turbin, quoi.
Et entre ceux qui, du coup, les délégués de ces différents festivals, vous avez des moments où vous retrouvez
Oui, dans d'autres festivals. Donc il y a le Ficunam au Mexique. Oui, on se retrouve. On se retrouve quand on est soi-même ailleurs que chez nous, quoi.
Et même si vous n'êtes pas de la même culture, de la même nationalité, on parlait de qu'est-ce qui fait événement dans un film. C'est quelque chose autour duquel vous pouvez discuter. Vous êtes d'accord, par exemple, ou pas ?
Encore une fois, c'est moins les accords ou les désaccords qui comptent que les raisons des accords et des désaccords. Qui, quand on parle avec des gens de confiance, sont toujours sont des motifs instructifs, quoi. Vous voyez ? Plutôt que de se dire... plutôt que de dire oui, non, c'est pourquoi, comment ? Ça m'intéresse. Et puis, je crois qu'il y a une espèce de solidarité d'un certain nombre de manifestations sur on est assez heureux et fier, je crois, de défendre, de se battre aux côtés d'un cinéma qu'on pense être vivant, enthousiasmant et qui fait débat, quoi. Vous voyez? Ou justement d'autres considérations. Enfin, autrement dit, et sans vouloir être sentimental, mais il y a beaucoup d'amour qui se distille autour de ces aventures-là. Et autrement dit, on ne considère jamais les films comme des espèces de produits destinés soit à séduire, même à nous séduire, vous comprenez? C'est plutôt quelles aventures singulières on a tracées. Puis après, on parle de choses techniques, de programmation. Par exemple, avec Miguel, parce qu'au départ, il devait y avoir d'autres dates de sortie. J'avais imaginé ouvrir, faire le milieu et clôturer, par exemple. Bon. Donc ça, c'est des trucs, on se dit, ah ouais, c'est une belle idée. Oui, c'est-à-dire, c'est tout bête, mais c'est des trucs de mécano entre mécano. De quoi parle les directeurs de festival entre eux, de films et de comment on... Ouais, comment, pourquoi on pense que faire la rétro de telle personne, c'est important. Puis après, il y a des films comme ça qui ressortent et sur lesquels il y a débat. Par exemple, je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de débats sur le Pasolini de Ferrara, parce que c'était touché à une icône du cinéma. Donc ça avait créé beaucoup de chaleur, mais y compris dans la, vous voyez, dans le différent, mais beaucoup, c'est très respectueux.
Et vous ne parlez pas de la valeur, parce que c'est un terme que j'ai entendu dans un festival, la valeur symbolique des auteurs.
Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Qu'un festival doit aussi construire autour d'un auteur une attente pour qu'il prenne de la valeur et qu'il circule dans d'autres
festivals. Ça fait longtemps que j'entends ça.
Ah, j'ai entendu ça.
C'est vrai? Bon. Je peux vous demander qui, mais c'est pour vous effacer. Oh, bah, moi, je vous dis des trucs et vous me promettez bien de les effacer.
C'est des auteurs cotés en bourse.
Bon, non, écoutez, alors franchement, c'est la première fois que j'entends ce vocabulaire. Il y a un effet, si vous voulez, il y a un effet de confiance, il y a un effet de confiance et qui est le parent de l'effet d'angoisse, de manquer quelque chose, qui fonctionne effectivement dans les festivals. Il y a des choses qui, ça circule.
À quel moment vous avez découvert le cinéma philippin, en fait?
C'était je crois qu'il y a eu Tilak Taïmik, The Perfect Nightmare, ça je sais plus où j'ai vu ça, comment renverser. Et puis après ça a été le deuxième film en réalité de Raya. Short story for about Indo National. Et donc je lui ai demandé son premier film, qui s'appelait je crois The Island. C'est un documentaire d'ailleurs, sur une île, très 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 étrange. Et après je me suis rendu compte qu'ils étaient toutes, en tout cas cette partie-là du cinéma philippin, qu'ils étaient toute une bande. D'ailleurs en 2006, quand j'ai montré Short Story, il est venu avec John Torres, il est venu avec... C'est vrai? Non, mais des autres aussi, parce qu'il est venu avec des cinéastes mais qui ne montraient pas leurs films à ce moment-là. Hein. Et toute cette bande, après j'ai compris après qu'ils avaient été drivés par Lav Diaz, avec qui j'ai parlé longuement de ça, de sa façon dont il a parrainé, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est super intéressant ça, très 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 intéressant. Et là aussi dans un contexte compliqué, hein, je dirais économiquement. Et... ça a été un effet de boule de neige, quoi. C'était la stupéfaction du film d'Oria. Enfin, après, mais sauf que Kid Lat, en réalité, parce que le film, il est ancien. Puis Kid Lat, vous savez, c'est quelqu'un qui figure dans Caspar Hauser de Herzog. Ouais, il a un rôle dans le. dans la scène de cirque, et Herzog lui dit bon, il faut faire vos films et, à vous. Donc, et il a été très important pour l'Avdias, Kidlat. Il vit encore, hein, il a terminé un film qui était à, ben, je crois que c'est l'année dernière, qui était à Berlin, non ? Que j'ai vu ailleurs d'ailleurs, que j'ai vu à Lisbonne. Je sais plus, enfin oui, je crois. Un film qui a mis 10 ans à finir. Là, vous savez, il y avait la rétro à l'Avdias au Jeu de Paume, et donc ils m'ont invité à faire la masterclass là où, je ne sais pas comment appeler, enfin la rencontre avec l'Avdias. Ah oui, ils ont retransmis. Non. Ah oui, de l'AV. Et bon, enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant de voir comment ils travaillent. C'est-à-dire que. Parce que je lui ai dit, alors, j'ai dit, écoutez, l'AV, vous êtes sur des. Enfin, ça, c'était hors le micro, c'est qu'on discute. J'ai dit, mais vous êtes sur des plans séquences extrêmement longs, avec des choses de ressort, au fond, mélodramatiques. Enfin. Disons, possiblement, hein, à interpréter. Donc, il vous faut des putains d'acteurs. Il dit, ouais. Comment ça marche ? Je dis, ben, ça, c'est l'emmerdement. C'est-à-dire que, comme il a besoin d'acteurs extrêmement aguerris, ces gens ne sont pas disponibles comme lui pourrait le souhaiter, puisque lui, il s'ingénie à tourner dans tous les coins du pays. C'est très important pour lui. C'est très important, les repérages. Et évidemment, il travaille sur des longues périodes, puisque déjà, un plan, c'est 20 minutes. Ou, bon. Et donc il dit que ses tournages sont conditionnés par la disponibilité des acteurs, ce qu'on ne croirait pas. Enfin, il fait des films de 9 heures. Et donc, comme c'est le cas, ce qu'il fait, c'est qu'il croise les films. Donc, il commence le tournage d'un film parce qu'un tel est disponible, et il va shooter avec lui pendant, je ne sais pas, une semaine, alors qu'ils sont une équipe de 5 ou 6, hein. Et puis la semaine d'après, il va tourner un autre bout d'un autre film, parce que... Alors moi, j'aurais pas du tout imaginé ça, par exemple. Et vous voyez ? Et ça change beaucoup. Là, il est, par exemple, aujourd'hui, sur 3 projets en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a un qui n'arrête pas de travailler. Comme vous savez, en plus, il écrit beaucoup, mais il tient aussi compte de ce qui se passe, c'est-à-dire que aussi bien le matin, il a décidé de changer
le tournage aussi.
Tout à fait, il écrit beaucoup de tournage. Donc, en fait, ça fait sur 3 chantiers, sur des longueurs où il va mettre 2-3 ans à finir un film, mais au fond, il y en a toujours un, vous voyez. Et c'est génial. Et quand vous dites, alors, voilà, typiquement, enfin, vous faites des films pour qui ? Je veux dire, parce que ça sort pas en salle, 12 heures. C'est pas mon problème, je fais des films.
C'est sa liberté, avant tout.
Et il fait des films qui sont respectueux du public. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas. Bon, je m'en fous.
C'est le cas de beaucoup de monde.
De tous en réalité. Mais quand on dit respectueux du public, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire le public qui est dans la salle ? Non, ça veut dire celui auquel on destine ce qu'on est en train de fabriquer. Donc, je me tourne vers mon film ou je tourne le dos au film et je pense à celui qui est de l'autre côté. Enfin, ça, c'est un vieux débat. Mais en tout cas, lui, de façon absolument... Et puis l'économie de ça. Parce que, il réussit à trouver pour moi, ce qui reste une énigme. Hein.
Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus rare.
Comme ça, beaucoup plus rare. Donnez-moi un comparable. Personne qui fait ça.
Parce que le type d'économie est différent.
Parce que je pense aussi, oui, parce qu'il y a des habitudes, parce que... Et puis, je pense que...
Il y a la rareté, surtout.
Et puis là, il y a des... Et puis vous parlez avec lui, enfin, je veux dire, c'est très, très, très... Là, la rétro permettait aussi de mesurer ça, combien c'est quelqu'un qui n'a de cesse de parler de l'histoire de son pays. Et donc, en réalité, ces films, c'est de la prise directe politique, si vous voulez, et donc il y a une urgence poétique, non ? Il y a une urgence poétique qui se tricote avec l'urgence politique. Alors, ça aussi, d'une certaine façon, c'est sa malchance et ça et ce dans quoi il a grandi.
Là, on pourrait se dire qu'en France, il y a aussi une urgence politique. Enfin, j'espère que dans les films que vous allez recevoir, que vous allez projeter, on pourra ressentir.
C'est pas comme, il n'y a pas un écho comme ça. Hein, moi, je suis toujours très très prudent. Oui, vous avez dû remarquer, rarement, il se passe un truc, je réagis, je le fais peu, je l'ai fait avec le printemps arabe en inventant autre chose, en disant des films en chantier, pas des films finis, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que je me disais, ben non, le printemps arabe n'est pas fini, je ne vois pas pourquoi je montrerais quelques films qui existent et qui seraient censés, comme ça, dire la vérité sur un événement qui me paraît être encore en cours, ça me paraît être une erreur politique et. Et là, ce qui se passe, effectivement, c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt dans l'appétit, dans une certaine fougue, ou grâce à elle, que j'ai envie de réagir. Hein. Mais qui m'est offerte, hein, je veux dire, c'est pas moi qui. Mais c'est celle que j'ai envie de guetter. Et effectivement, j'espère que je vais la trouver. Mais c'est vrai qu'on l'a. Je l'ai beaucoup rencontré en Amérique latine, j'ai beaucoup rencontré en Asie, parce qu'étrangement, il y avait une avidité de faire avant même de se poser la question de la destination. C'est-à-dire ces gens, ils travaillent vraiment comme, au fond, comme des peintres dans un atelier. Tu dois faire ton tableau, c'est ça qui compte avant de savoir où il va être accroché, à qui tu vas le montrer.
Il y a une nécessité.
Exactement.